Radio Okapi. Écho des développements.
Bienvenue dans Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables de Radio Okapi qui s'intéresse aujourd'hui à l'adoption du projet de loi portant protection des droits des peuples autochtones en RDC. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou, Jean-Marc Matoua qui supervise et coordonne ces numéros et Polydor Basunga assure la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute d'Écho du développement.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïs Chabora chaque lundi, droit et citoyenneté mardi, parité et famille mercredi, écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Plusieurs ONG internationales et nationales ont salué l'adoption au mois d'avril dernier au niveau de l'Assemblée nationale de la loi portant protection des droits des peuples autochtones en RDC. Reconnaître les droits de ces communautés est une preuve de reconnaissance du rôle des gardiens des forêts que l'on attribue aux peuples autochtones selon ces ONG. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi qui est en seconde lecture au niveau du Sénat? Qu'est-ce que cette loi va apporter au quotidien des peuples autochtones de la RDC? De plus amples détails dans ces numéros d'Écho du développement qui débutent avec les témoignages de John Benaminkumbi, un peuple autochtone ressortissant de Bikoro dans la province de l'Équateur qui s'est dit très satisfait de l'adoption de cette loi au niveau du Parlement car elle va aider à réduire les inégalités sociales entre les peuples autochtones et les Bantous dans les villages où ils vivent.
Pour les conditions où vivent les peuples autochtones, spécifiquement chez moi dans la province de l'Équateur, le peuple de Biko, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Nous vivons une condition, une situation de discrimination, d'exclusion, de non-considération par nos voisins.
Quelques exemples concrets.
Par exemple, au niveau de Biko, il est strictement interdit un pygmée ou un motoua et un bantou ou un moto de manger ensemble dans une même assiette. Aussi, il est strictement interdit, selon les coutumes, de conclure un mariage entre un homme pygmée et une femme bantou. Et les hommes bantous, ceux qui ne veulent pas obtempérer aux coutumes rétrogrades, ils ont le courage de prendre des femmes pygmées comme leurs femmes. Et de là, ils sont chassés par leur communauté.
L'adoption de ces projets de loi portant protection des droits des peuples autochtones en RDC est le couronnement de plus de 10 ans de lutte des acteurs de la société civile œuvrant dans le secteur soutien. Patrick Saïdi, coordonnateur national de la dynamique des groupes des peuples autochtones au DGPA en sigle.
Dans toutes les provinces où vivent les peuples autochtones pygmées au moment où je vous parle, il y a des fêtes, c'est la célébration parce que pour les autochtones pygmées, après plusieurs siècles, plusieurs décennies de discrimination, de rejet, de non-considération, pour une fois, l'État congolais vient de prendre une décision historique de mettre en place un outil législatif qui vise spécifiquement la promotion et la protection des peuples autochtones pygmées, la valorisation de leur culture, la restauration de leur dignité, mais aussi leur implication dans la gestion de la chose publique. En tout cas, la plus-value, ou je dirais l'élément clé de cette loi, c'est déjà le fait que la loi vient de reconnaître d'abord l'identité de l'homme pygmée. Parce que le fait d'accorder ces concepts des peuples autochtones tels que définis au niveau international, c'est un concept qui se définit par rapport à l'identité, par rapport à l'attachement à la culture, par rapport à l'attachement à la terre ancestrale. Et dans notre pays, on vient de reconnaître toutes ces valeurs-là aux peuples autochtones pygmées, des valeurs effectivement qui ont fait que ces derniers soient discriminés dans les années passées. Parce que le fait qu'ils soient liés à l'environnement, liés à la forêt, il y a les gens qui les considéraient comme des animaux. Et aujourd'hui, l'État congolais vient de démontrer les contraires de ces genres de conceptions en disant d'ailleurs que ce qu'ils tirent, que ces conceptions sont utiles et pour l'État congolais, et pour la lutte contre le changement climatique, et dans la préservation des les écosystèmes et les forêts qui se retrouvent effectivement dans les bassins du Congo.
La loi a été adoptée, monsieur le coordonnateur de la DGPA, mais maintenant dans la faisabilité, quelle est la prochaine étape à suivre et comment cela va se fonctionner avec les ministères concernés par le peuple autochtone.
En tout cas, pour nous, après la joie, après avoir fêté et dansé, la prochaine étape, c'est le suivi au niveau du Sénat, où nous allons mettre le même énergie qu'on a mis au niveau de l'Assemblée nationale, pour que les sénateurs, dans la seconde lecture, ils puissent toujours avoir ces cœurs immenses, parce que ce sont nos sages, ce sont nos papas, et on espère qu'ils vont faire diligence pour permettre effectivement aux peuples autochtones pygmées de rester dans ce même sentiment de joie à travers l'adoption au niveau du Sénat. Et nous espérons, et d'ailleurs nous croyons, que le chef de l'État est avec nous, parce qu'il a promis depuis l'année passée qu'il est prêt effectivement à promulguer cette loi dès qu'elle arrive à sa table. Donc nous espérons qu'après avoir finalisé ce travail au Sénat, donc le chef de l'État va effectivement promulguer cette loi. Après la promulgation, comme vous l'avez posé, c'était le deuxième volet de votre question, on ne va pas se limiter là, parce que nous savons qu'il y a plusieurs processus de réforme en cours, notamment c'est toutes les questions foncières, il y a toutes les questions liées à l'aménagement du territoire, il y a la loi forestière en cours de révision, ainsi que même la définition d'une politique forestière, il y a la loi agricole sous examen au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le travail qu'on va faire déjà à notre niveau, c'est de voir comment mettre la cohérence entre la loi autochtone adoptée au niveau de l'Assemblée nationale avec ces lois sectorielles-là, pour que ces lois puissent déjà d'emblée, d'office, s'imbriquer et prendre en compte les contenus qu'on retrouve dans cette loi. Mais ça sera aussi la même chose au niveau de tout le ministère sectoriel par rapport à leur portefeuille, comment nous travaillons avec eux pour commencer à développer les mesures d'application. Les mesures d'application, ça peut être des décrets, ça peut être des arrêtés, ça peut être aussi des édits, parce que nous savons que dans le cadre de la décentralisation, nous avons des gouvernements provinciaux qui ont aussi des attributions, mais c'est dans ces attributions-là comment on travaille avec ces gouvernements provinciaux pour qu'ils prennent des dispositifs à ce moment-là spécifiques par rapport aux peuples autochtones pygmées qui se retrouvent dans leur province. Parce que la loi, elle est nationale, et c'est un outil de référence législatif, mais comment on arrive à les rendre un peu plus spécifiques, à les spécifier effectivement, à les contextualiser par rapport à nos provinces, parce que ce n'est pas le même problème, ce n'est pas la même réalité.
Pour Jean-Marie Kanda, coordonnateur national du réseau ressources naturelles RRN, l'adoption de cette loi doit être considérée comme une approche progressiste en termes de protection de l'environnement et de promotion des droits des peuples autochtones longtemps marginalisés par les Bantous dans les villages où les deux communautés cohabitent. Selon lui, les pygmées jouent un rôle primordial dans la préservation des forêts primaires congolaises.
C'est vrai que nous sommes tous des Congolais. Tous les droits qui nous sont reconnus, les droits civils et politiques, les droits sociaux, économiques qui sont reconnus à tous les Congolais, leurs sont reconnus également. Mais il a fallu la loi pour que certaines communautés bantou nilotiques qui estiment que les peuples autochtones pygmées sont leurs propriétés de par leurs coutumes, cessent avec ces considérations-là. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire qu'on puisse avoir un instrument qui soit contraignant et qui permette à sanctionner des comportements qui vont dans le sens de chosifier nos compatriotes par le fait qu'ils sont pygmées.
Monsieur le gouverneur, quelle est la particularité de ces projets de loi?
La particularité, c'est, vous savez, il y a des instruments internationaux, accords auxquels la RDC a adhéré, qui connaissent le droit des peuples autochtones. Et la première caractéristique, c'est le fait que cette loi consacre cette qualité de peuple autochtone pygmé. Souvent, lorsque nous étions à l'école primaire, on parlait plus de peuple autochtone, c'est la plupart des communautés, lorsque elle est chez elle, elle se disait comme communauté autochtone. Mais avec l'évolution, c'est la catégorie, c'est le peuple pygmé, que nous appelons pygmé, batois, qui aujourd'hui est reconnu comme peuple autochtone. Donc il ne faut pas aujourd'hui que, bon, on peut parler des minorités, mais aujourd'hui en RDC, si on parle des peuples autochtones, on se réfère aux pygmées. Et c'est cette loi qui vient consacrer ce principe-là.
Oui, parce que quand vous parlez en termes de jouissance, nous sommes tous congolais, oui, c'est vrai, et peuples autochtones qui jouissent de tous les droits, qui jouissent aussi les bantous. Mais est-ce que ça valait la peine qu'il y ait une particularité d'adopter une loi en faveur des peuples autochtones?
Oui, parce qu'au départ, le terme pygmée était plus considéré par certains comme péjoratif. Alors, pour qu'aujourd'hui on considère que non, ce terme-là, ce n'est pas un terme péjoratif, mais c'est un concept aujourd'hui qui consacre tout un peuple. Un peuple, les premiers habitants de la RDC, comme on s'est dit. Donc, la particularité d'abord, c'est celle-là, consacrer ce principe, ce concept de peuple autochtone pygmé, que ce soit reconnu comme tel, comme peuple à part entière en RDC. Et où il y a aussi des considérations, la loi civile, comme je l'avais dit au départ, tous les droits socio-économiques, tous les droits civils et politiques reconnus à tout Congolais, les sont reconnus également, mais on a voulu que, par rapport à eux, que les choses se fassent par rapport à leur mode de vie. Parce que, à part ceux qui sont en ville...
Ils ont un mode de vie tout à fait particulier.
De par leur mode de vie, ils sont en brousse, ils vivent en brousse, si bien que aujourd'hui, avec l'intégration, nous commençons à constater un peu l'intégration, qui commence à quitter le milieu forestier pour venir habiter dans les cités, dans les villes, et ils s'intègrent. Mais par rapport à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de se déplacer, il faudra qu'ils soient considérés par rapport à leur mode de vie.
Ok. Donc, le projet de loi est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, il passe en seconde lecture au niveau du Sénat. Quel est le souhait du RRN?
Le souhait, c'est que nous puissions avoir au cours de cette année la loi promulguée par le président de la République pour que nous puissions en faire objet de vulgarisation, de large vulgarisation. Pas seulement au niveau des médias, oui, Radio Capé parce qu'elle est entendue partout, mais il y a des médias, des radios, des télévisions qui ne sont suivies que dans les villes.
Des radios communautaires.
Alors, mais celle-là, il faut utiliser Radio Capé, les radios communautaires, pour que ce soit suivi. Et même des émissions, surtout. Aller discuter, présenter la loi aux communautés qui, de par leurs coutumes, considèrent que les peuples autochtones des Pygmées sont leurs propriétés. C'est le grand travail à faire, c'est auprès de ces communautés-là. Parce que ces communautés...
Il y a des communautés comme ça, à travers des pays...
Oui, il y a des communautés dans certains territoires du pays, parce que les peuples autochtones ne se retrouvent pas dans tous les territoires. Ils sont dans les territoires d'Oshue, et quand vous êtes dans le Grand Bandundu, dans le Grabandundu, vous ne trouvez les pygmées que dans Kiri et Oshu. Hein? On n'a pas de pygmées là où ils sont basés. Mais avec le mouvement, c'est comme tout citoyen. Chacun est libre de choisir là où il peut vivre. Il y a des pygmées qui ont quitté leur lieu d'origine pour commencer à vivre un peu partout dans la ville. Et là, il n'y a pas tellement de discrimination. Mais nous vivons encore des comportements qui frôlent la discrimination.
Lorsque...
Nous, on considère que le peuple autochtone, c'est mon peuple. Hein, c'est un bien à moi. On l'utilise, on ne le considère pas comme un citoyen à part entière. Et ça, nous avons encore des états quand vous allez dans nos villages, au fin fond du territoire d'Oshue, là où il y a des pygmées, même des territoires d'Oshue, c'est pas aussi partout. Quand vous allez dans le Congo, chez nos communautés qui sont dans le secteur entre Lukeni, et le Koro Lukeni, et là vous avez des pygmées, et il y a des communautés qui ont encore ce sentiment de discriminer les pygmées. Ils sont dans les Bikoro, ils sont dans les Akiri, ils sont à Mokoto, ils sont dans les Kasaï, ils sont à l'est, dans les Kivu. Donc, ils sont dans les Katanga, et là où ils sont encore en forêt, dans leur milieu naturel, même s'ils ne sont pas en forêt partout, mais ce sont des villages. Hein. Mais ces villages-là, ce n'est pas l'intégration totale avec les Bantous qui vivent à côté d'eux. Hein? Donc c'est un quartier au coin, au bout du village. Là, c'est pour les Pygmées et les autres sont de l'autre côté. Alors cette fois-là, nous voulons qu'il y ait de l'intégration. Quand on veut créer une école, je prends le cas des écoles, par exemple, on a eu à discuter avec un promoteur de projet RED. Mais la discussion pour implanter l'école de l'évêque Pygmée, les bantous disent non, nos enfants ne peuvent pas aller étudier là-bas. Alors que c'est une école. Hein? Et donc on veut qu'avec cette loi, on veut vraiment qu'on mette fin à toutes ces discriminations qui est encore aujourd'hui présente auprès de certaines communautés bantoues qui vivent à proximité de peuples autochtones.
Radio Okapi vous propose ce programme en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives au Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez en ce moment Écho du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable qui s'intéresse aujourd'hui à l'adoption du projet de loi portant protection des droits des peuples autochtones qui est en seconde lecture au niveau du Sénat. Donnons à nouveau la parole à John Benaminkumbi, un peuple autochtone ressortissant des Bikoro dans la province de l'Équateur qui signale que cette loi va promouvoir l'autonomisation et l'émancipation des Pygmées longtemps marginalisés par les Bantous dans l'arrière-pays.
Je vous dis, cette loi va apporter quelque chose de changement, pas seulement chez les peuples autochtones, mais même chez les non-voisins Bantous. Parce que c'est une loi. Et nous nous sommes appelés à respecter, sans exception aucune. Donc, cette loi apportera des innovations. Par exemple, accès gratuit des enfants pygmées et obligatoire à l'éducation. Accès gratuit des pygmées aux soins de santé dans les structures de l'État. Donc, par exemple, la gratuité des pygmées au service de l'État. Donc, ce sont des innovations où la loi va apporter, une fois promulguée par le chef de l'État. Et je vous dis que je suis en train d'encourager le sénateur, parce que maintenant, il leur revient d'adopter cette loi à leur niveau. Je suis en train de le supplier d'adopter la même attitude que ses frères honorables députés, comme ils venaient d'adopter la loi.
Et au niveau local, pensez-vous que les peuples autochtones aussi, eux, ils vont comprendre les bien fondés des avantages qui sont liés à cette loi qui accorde par exemple l'accès gratuit aux enfants pygmées, parce que pour l'instant, la gratuité concerne tout le monde, par exemple au niveau élémentaire. Mais ce qu'on constate, lorsque nous allons dans les villages où il y a les peuples autochtones et pygmées, généralement, le peuple pygmée ne s'intéresse pas forcément aux études.
Oui, monsieur le journaliste, pas dire que les enfants pygmées ne s'intéressent pas aux études. Il y a quand même des barrières, comme la discrimination, comme la pauvreté, qui ne donnent pas vraiment l'occasion à ces enfants d'aller à l'école. Oui, donc nous sommes là comme les acteurs clés pour essayer d'amener cette loi auprès de nos communautés. Nous nous portons des volontaires, mais nous avons besoin de l'appui de vous autres, les médias, nous avons aussi l'appui des partenaires nationaux, internationaux, voire même notre gouvernement. Alors, Nalobi Boye, Mobekoyo, ba député Nabiso, ba utiko Kondima Yango, ezali pona mbala ya liboso. Depuis Congo ezali panda, po ete ezwa Mobeko ya ndenge wana po ete biso bande ko batwa, toka ko yeba na lokola ba imboka penza. Ba yango. Ezali Mobeko etali bato nyonso, ezali kaka pona batwa te, ekomema pe makambo ebele. Nandaksa, eyebani ete baimbo kabatwa, babati la kazama makasi na mayele na bango. Sikoyo soki misolo mitaliza ma mipesani, na kanisa ete gouvernement, biso ekoyeba bato babati la kizama na mayele na bango, bazali pe na mwa litomba tukoyeba kopesa bango. Nandaksa, biso ba ekole, kosala biso ba sante de sante, ba poste de sante pene na biso. Donc un mauvais coyo, ils allaient prendre la boule à bisonnion, so, et singuli toye batina na yango, ils allaient prendre la balle, batoua pas batte, mais ils allaient prendre la moka mobaya Congo, et puis ils allaient copier ça, boka simpo na kobate la zamba surtout, parce que la loi du Cambodia zamba, ils allaient du Cambodia n'aime pas, ils allaient qu'oblique sa bisonne à ma camotale, changement climatique et topé, mbongwana yabileko.
Pour sa part, les coordonnateurs de la dynamique des groupes des peuples autochtones ajoutent que l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi relative à la protection des droits des peuples autochtones et la reconnaissance de l'identité des Pygmées comme peuples autochtones de la RDC et la valorisation de leur culture.
Parce que pour nous, la résilience, c'est là on a parlé de la culture. Comment on arrive à capitaliser la résilience, par exemple, des peuples autochtones pygmées comme une valeur ici chez nous? Il y a toutes ces questions liées à la conservation des ressources naturelles. Comment on arrive à capitaliser des méga connaissances traditionnelles qui renferment la résilience des peuples autochtones? Et quand on dit la résilience par rapport à nos auditeurs, c'est pour dire, par exemple, l'homme pygmé vivait dans sa forêt où il n'y avait personne à l'époque, mais aujourd'hui, il se sent menacé dans cette forêt-là parce qu'elle est objet de beaucoup de convoitises, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, peut-être l'exploitation pétrolière. Il y a toutes ces activités agricoles qui s'exercent dans cette forêt-là. Mais l'homme pygmé n'a jamais renié son identité. Il restait ce qu'il était jadis, mais tout en faisant face effectivement à cette pression-là, ou à toutes ces pressions extérieures qui s'exercent à son environnement. C'est ça la résilience, c'est cette capacité-là de garder son identité, de garder en tout cas ces pratiques qu'on a eu à faire malgré que l'environnement change, mais nous on ne change pas. Okay. Comment capitaliser ça dans notre société actuelle? Et la loi renferme beaucoup d'éléments dans ce sens-là, même tous ces éléments liés au site sacré, à ces interdits qui feront assez que non seulement qu'on compose avec l'environnement, mais qu'on respecte l'environnement elle-même, qu'on respecte les écosystèmes qu'on retrouve dans notre environnement. C'est beaucoup d'éléments qui sont dans cette loi, qui ne sont pas là seulement pour le pygmée, mais je pense que si nous mettons cette loi en œuvre, c'est l'État congolais finalement qui gagnerait dans son ensemble et toutes les communautés non pygmées.
Tout est parti des combats jusqu'à arriver aujourd'hui, à l'adoption d'abord au niveau du Parlement. Et est-ce que vous avez l'espoir qu'à l'avenir, les choses vont s'améliorer en faveur des peuples autochtones? Et si tel est le cas, quels sont les préalables qui doivent être mis en place?
En tout cas, c'est une longue liste, mais on ne saura pas faire.
Assez...
voilà, donc on fait vraiment toute une ligne historique par rapport à ça. Mais si je peux prendre une année référence, en 2006, il y avait déjà un travail que l'État congolais avait engagé dans le cadre de la révision du code forestier, ou la mise en place du code forestier, parce qu'on n'en avait pas d'ailleurs, et qui a démarré en 2002. Et vers 2006, il fallait que l'État congolais puisse faire un travail de révision des anciens titres forestiers. Et déjà, rien que dans ce travail-là, il y avait une omission, parce qu'on parlait des communautés locales, mais on ne faisait jamais référence aux pygmées. Je parlais d'abord des pygmées. Et sur base de tout le plaidoyer qu'on a eu à faire avant,
une
discrimination voilée, il fallait se battre auprès du chef de l'État qui avait exigé donc, le président honoraire, M. Joseph Kabila, à l'époque, qu'il fallait qu'il y ait une grande commission interministérielle qui devrait siéger là-dessus. Et la liste pour nous, c'était déjà que quand on va inviter les communautés locales, comme on appelait à l'époque, qu'il y ait des représentants pygmées. Et ça, c'était vraiment une liste. Et le président, à l'époque, avait concédé. Et en 2007, il y a eu la déclaration des Nations Unies qui a été signée par plusieurs États à travers le monde. On a bousculé encore notre pays en disant la façon dont on définit les peuples autochtones au niveau international. Et quand on regarde le pygmée, il n'y a pas photo. D'ailleurs, c'est le pygmée qui remplissent effectivement ces critères-là. Et quand on parle de pygmée, oui, en RDC, on les retrouve aussi au niveau de la sous-région. Notre pays avait signé. Et maintenant, comme le pays a accepté de signer la déclaration, la lutte qu'on devrait mener, c'était de voir comment maintenant l'État congolais arrive à accepter que finalement l'homme pygmée correspond à ces critériums qu'on a accordés au concept peuple autochtone, donc du coup que l'homme pygmée est peuple autochtone. Okay. Et ça, c'était une longue lutte qu'on a eu à faire, et vers 2011-12, effectivement, il fallait qu'on puisse domestiquer cela à travers un outil juridique qui devrait venir non seulement consacrer ces concepts ou l'identité, mais réparer tous les préjudices et injustices qu'a subi le pygmée dans notre pays depuis des siècles, depuis des décennies. Donc de 2011-12 jusqu'à 2021, c'est une lutte acharnée qu'on a menée non seulement sur le plan législatif, il fallait aussi les mener sur le plan local, parce que la discrimination, la marginalisation, c'est au niveau local. Ce n'est pas au niveau peut-être de l'ensemble ou au niveau de Kinshasa. Comment se battre avec nos coutumes rétrogrades? Comment amener tout le monde vers cette compréhension commune pour dire qu'on ne cherche pas à créer un peuple à part, mais nous cherchons tout simplement à favoriser une intégration mais responsable, une intégration où nous nous acceptons dans notre diversité. Donc c'est ce parcours-là, donc de plus de 10 ans, qui vient d'aboutir aujourd'hui à ce bébé. Ce n'est qu'un bébé qu'on appellerait la loi pour les peuples autochtones pygmées. Il faudra maintenant accompagner ce bébé pour qu'il apprenne à marcher, peut-être aller à l'école un jour, et pourquoi pas, se retrouver dans les institutions de la République.
Lors de la promulgation du projet de loi portant protection des droits des peuples autochtones par Félix Tshisekedi, président de la République, ces textes réglementaires doivent être publiés dans un guide de vulgarisation afin de faciliter la compréhension de cette loi auprès des peuples pygmées et bantous qui sont censés cohabiter pacifiquement dans leur espace vital sans discrimination et sans rejet social. Ce sont des leaders communautaires des pygmées et bantous qui auront la responsabilité de sensibiliser les leurs, conclut Jean-Marie Kanda, nous rappelant qu'il est le coordonnateur national du réseau Ressources Naturelles.
Que ce document-là soit mis dans un guide de vulgarisation en un langage simplifié et que ce document soit mis à la disposition des leaders communautaires, des leaders bantous comme des leaders PEA. Parce que s'il faut mettre beaucoup de moyens en élaborant, en multipliant les documents lingala français, ce sont des documents, je vous dis, qui ne seront pas beaucoup utilisés. Mais le document en français, faites une expérience. Allez voir partout, on a publié des documents comme ça. Même chez nous, si on était encore là où on était avant, j'allais vous amener dans notre dépôt, où on avait la plupart des documents qui sont encore là, c'est des documents écrits en langue. Mais les documents en français sont vite partis. Donc, c'est vrai que nous parlons lingala, allez-vous dans les églises. Il faut une répétition pour bien lire, du moins chez les catholiques, on fait encore la lecture en lingala.
Oui, ça c'est à l'intention donc, des leaders et à l'intention des communautés autochtones.
À l'intention des communautés autochtones, ça ne doit pas faire l'objet de comment dirais-je, d'orgueil face aux communautés bantous concernées par la problématique, mais seulement qu'on a mené une loi, on vit ensemble. C'est plus aller dans cette que ça soit pas une provocation pour les autres. C'est comme ça que nous on a voulu que dans notre approche que l'appropriation de la loi soit d'abord faite par les communautés bantoues vivant avec les PEA. Là ils comprendront que ce sont eux qui doivent accepter qu'aujourd'hui le PEA qui est à son côté ne doit plus être traité comme nos coutumes le voulaient avant, mais il y a des évolutions aujourd'hui, c'est un citoyen à part entière, nous devons partager, s'il y a à partager un verre de vin, on le fait au village comme tout le monde, ce qui ne se fait pas, partager les mêmes salles de classe, et même s'il y a une école qui est construite dans un village pygmée, laissons nos enfants aller étudier là-bas, ils ne vont pas devenir pygmées pour autant, et puis le pygmée, c'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Donc voilà un peu le gros du travail à faire vers les communautés qui, d'après leurs coutumes, avaient des relations très étroites, mais des relations discriminatoires avec le PEA. Et que le PEA aussi connaissent leurs propres droits parce que on ne sait pas promouvoir quelque chose, on ne sait pas défendre quelque chose si on ne connaît rien. Donc on doit d'abord connaître, voilà, aujourd'hui, nous sommes Congolais, tous les droits qui sont reconnus aux Congolais de par la Constitution, nous sommes aussi reconnus, mais avec des facilités que chez nous, lorsqu'on veut, par exemple, si on veut aller dans l'optique de, il faut créer des écoles ici, il faut qu'on tienne compte de notre mode de vie. Il faut qu'on vienne nous consulter, il faut qu'on nous associe, qu'il y ait la concertation, voilà. Et qu'ils sachent qu'ils doivent être prompts à la concertation, pas se recroqueviller pour dire que nous, on veut toujours rester dans la forêt. Non, non, qu'ils comprennent aujourd'hui que non, il y a des évolutions qui se font. Nous, on doit vivre comme tous les autres citoyens congolais. Et tout en étant fier de notre mode de vie.
C'est par ici que s'achève Écho du développement consacré au projet de loi portant protection des droits des peuples autochtones en RDC que vous a présenté Tati Mapoukou. Jean-Marc Matoua qui a coordonné et supervisé ces numéros et Dieudonné Nyangasa était à la prise des sons. Retrouvons-nous pour un nouveau rendez-vous le jeudi prochain. À bientôt.